Interview.
2 jours.
Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Laurent Bauve qui est venu hier soir donner une conférence dans le cadre des Rencontres de Luc. Hier soir, c'était donc le vendredi 25 novembre, pour nous parler de Dieu, le Dieu de Spinoza. Et le sous-titre, si je puis m'exprimer ainsi, était « Croire en Dieu ou penser Dieu philosophiquement ». Elle a été suivie d'ailleurs ce matin d'un après qui a permis à un certain nombre de personnes de se réunir autour de Laurent et d'évoquer ce qui avait été dit la veille et d'échanger plus au-delà d'ailleurs de ce qui avait été dit la veille. Ça a été très intéressant, très enrichissant. Donc quelques mots avec Laurent de manière à présenter, si tant est qu'on doit présenter la philosophie et qu'on doit présenter Spinoza, parce que je pense que ça va être un peu court de présenter et la philosophie et Spinoza. Mais peut-être en introduction, j'aurais souhaité savoir, quand on est étudiant en philosophie, qu'on connaît, qu'on va découvrir de quoi est fait la philosophie, c'est-à-dire d'un certain nombre de penseurs qui ont traversé les siècles, qu'est-ce qui fait qu'un étudiant en philosophie va d'un seul coup tomber en amour, si je puis m'exprimer ainsi, ou en tous les cas en curiosité, en désir de rencontrer un philosophe comme Spinoza, ce qui, je crois, est ton cas.
Bonjour d'abord, Christian, hein, et je dois dire tout d'abord que combien je suis heureux d'avoir rencontré, aussi bien hier soir que ce matin, beaucoup de personnes dans ce pays du Diwa, avec qui nous avons pu parler et échanger de manière très riche. Alors, pour répondre rapidement à ta question, je dirais que un grand philosophe du XXe siècle, qui est Gilles Deleuze, disait de Spinoza qu'il était le prince des philosophes. Cela veut dire que finalement, si l'on cherche dans la philosophie un penseur des plus conceptuels, c'est vers Spinoza que l'on va aller. Mais le paradoxe, je le dis tout de suite, c'est que c'est à la fois une pensée des plus conceptualisées, puisque Spinoza écrit son éthique de manière mathématique, moré-géométrico, et cela peut être glaçant pour le lecteur de voir commencer un livre par des définitions, des axiomes. Et pourtant, lorsqu'on rentre dans la pensée de Spinoza, il n'y a sans doute pas de pensée plus charnelle, plus communicative, plus affective que cette pensée. Donc on est peut-être dans ce paradoxe fascinant d'être au summum d'une pensée philosophique et d'être au cœur du réel et de notre réel, pas celui de Spinoza au XVIIe siècle, mais celui que nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle.
Tu parles de charnel. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui vont écouter cette émission, qui diront, et qui pensent d'ailleurs, et qui sont convaincus que la philosophie, c'est pas pour moi, c'est complexe, je n'y comprends rien. Dans les formules ordinaires qu'on a pu entendre, plus jeunes, parce qu'on en parle moins maintenant, prendre avec philosophie la vie, un certain nombre d'éléments de la vie. Comment peut-on, et pourrais-tu résumer un peu, comment peut-on rendre une actualité, enfin un sentiment que la philosophie n'est pas quelque chose qui nous est étranger, mais qui nous est intimement lié, et qui concerne toutes les personnes, quelles qu'elles soient, et surtout celles qui pensent que la philosophie n'est pas pour elles. Comment, si tu avais quelques minutes à leur consacrer, et que tu vas prendre d'ailleurs, les convaincre que la philosophie n'est pas une chose inatteignable, qui est quelque chose qu'elles peuvent entendre et qu'elles vont, en l'entendant, se dire qu'en fin de compte, d'une certaine manière, elles la pratiquent.
Eh bien, je répondrai par le fait que si nos vies sont prises sous des carapaces qui sont celles de nos habitudes, de nos rencontres habituelles, justement, de la répétition de la vie commune, celle du travail, de la famille, etc. La rencontre avec la philosophie, c'est une grande ouverture qui touche en nous des couches, on pourrait dire profondes, du fait que nous soyons justement des êtres de chair avec ces espaces de liberté que la philosophie va toucher, mais ne va pas toucher seulement sur le plan intellectuel et des idées, mais va toucher, lorsqu'il s'agit de Spinoza, par des idées qui enveloppent des affects, c'est-à-dire que la manière de penser, on va s'apercevoir que c'est une manière de sentir, et que cette manière de sentir, c'est quelque chose qui ouvre des frayages au-delà, effectivement, de nos habitudes, de la répétition quotidienne. Donc la rencontre avec la philosophie, c'est toujours une liberté personnelle, mais aussi une liberté commune au sens où cela ouvre des relations nouvelles. Et par là même, des relations nouvelles ou des regards nouveaux avec autrui. Et au-delà, avec la société au sens plus large, en général, sur la manière dont nous vivons, dont elle fonctionne. Donc la rencontre philosophique n'est pas réservée à certains. Elle est pour tous, au sens où c'est un appel en chacun d'une liberté et d'une liberté avec autrui.
Pour faire suite à ce que tu dis, est-ce que... Et qu'est-ce qui, alors, je dirais presque, il y a deux aspects à ma question. Un, qu'est-ce qui amène un étudiant en philosophie tel que tu l'as été il y a quelques années à faire de Spinoza son philosophe de référence? Et deuxième question, qui est intimement liée à la première, quelles sont pour toi les caractéristiques qui font de l'éthique, enfin de l'éthique et surtout de Spinoza, l'éthique étant son livre majeur? Qu'est-ce qui fait de Spinoza un philosophe moderne et qui correspond à notre époque et qui semble, malgré qu'il soit né et mort il y a plus de 3 siècles, encore dans ses écrits et dans ses propos extrêmement en écho avec notre société?
Premièrement, sur le plan individuel, on peut dire que Spinoza, en ayant... étudier dans l'éthique la logique des affects, c'est-à-dire ce qu'on appelait traditionnellement les passions. En étudiant cette logique des affects, Spinoza montre que notre fonctionnement, avant d'être celui d'être de raison ou de pensée, est un fonctionnement affectif et relationnel. Ceci, il ne le dit pas contre la pensée, il n'oppose pas les passions ou les affects avec la pensée. Il le dit en quelque sorte de manière anticipée avec ce qui sera une grande révolution à la fin du 19e et au début du 20e siècle, à savoir les travaux freudiens. C'est-à-dire, il dit que... nous avons conscience de nos actes, mais nous ne connaissons pas les causes qui nous déterminent à agir et que ces causes, ce sont effectivement les complexes affectifs dans lesquels et par lesquels nous vivons. Alors je pense que cela est en premier lieu la modernité de Spinoza et en quoi il nous intéresse parce que il permet de réfléchir sur notre propre fonctionnement. Et je dirais, comment on devient spinoziste? Eh bien, c'est premièrement en essayant de comprendre la logique de ses propres affects. Deuxièmement, comme tu le demandes, c'est-à-dire l'ouverture sur la société, c'est que en fait les affects, ce sont nos affects, mais ce sont nos relations, notre manière de sentir, notre rapport aux autres, notre rapport au monde et à la société. Or, chez Spinoza, il y a un regard sur la société aussi bien dans l'imaginaire de cette société ou de ces sociétés et le fonctionnement effectif. Alors, sur l'imaginaire, Spinoza est très moderne au sens où il pense que la dimension de croyance chez les êtres humains est indépassable, c'est-à-dire qu'il développe ce qu'on appelle une anthropologie. Et loin de s'arrêter à cette constatation, et constatation qui est souvent négative, parce que à travers les croyances, comme nous le savons, les hommes peuvent s'affronter de manière superstitieuse, fanatique et violente. Mais Spinoza pose tout de suite la question, comment, à travers les croyances, les hommes peuvent quand même vivre ensemble ? Question fondamentale pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire comment, tout en restant dans le domaine de la croyance, une vie humaine, et une vie humaine qui même avance sur la voie de la raison, est possible. Donc il pose cette question qui pour nous est fondamentale. Et naturellement, cette question, au sens noble du terme, c'est-à-dire au sens grec de la vie commune, c'est une question politique. D'où également l'interrogation de Spinoza sur la politique, avec un regard d'ailleurs sur l'histoire. Nous sommes au XVIIe siècle et c'est pourtant déjà un penseur de la démocratie. Alors pourquoi la démocratie ? Non pas parce que c'est un régime qui serait plus moral qu'un autre régime, qui aurait donc plus de valeur morale, mais parce qu'il pense que c'est de la diversité, et là encore, cela croise des préoccupations contemporaines, c'est de la diversité, c'est de la pluralité, c'est de la complexité que naît le meilleur régime de vie commune. Pourquoi c'est le meilleur ? Parce que c'est celui qui peut avoir la plus grande productivité de vie. Alors cela signifie productivité de vie dans la production de liberté commune, mais aussi productivité de vie dans la puissance d'agir de chacun, dans le développement de sa raison, mais dans le développement aussi des sciences, des arts, etc. C'est-à-dire tout ce qui fait une société. Donc, la démocratie, c'est le dispositif qui élève le niveau, on pourrait dire, de la vie humaine. Or, cela implique aussi bien de réfléchir sur les institutions que de réfléchir sur des logiques affectives humaines, ce que l'on a déjà dit, dont la démocratie doit en quelque sorte se servir pour faire avancer les hommes sur la voie de la raison. Hein. D'où également les systèmes de croyances. Donc nous sommes dans une pensée qui traverse et qui traverse de manière extrêmement intelligente et extrêmement lucide les problèmes contemporains.
Une dernière question qui sera peut-être introductive à la conférence que, j'en suis convaincu, un plus grand nombre écouteront, qui est, nous sommes dans une société extrêmement crispée sur des signes religieux. J'aurais voulu avoir le sentiment d'un philosophe vivant avec Spinoza, si je puis m'exprimer ainsi, et à voir quelle pourrait être la position de Spinoza s'il revenait aujourd'hui sur le voile, celui qui nous terrorise tant et qui nous pose tant de questions et qui nous ébranle fortement.
Alors c'est difficile, bien sûr, de répondre à la place de Spinoza. Je répondrai en spinoziste, donc, et en assumant totalement, bien sûr, la réponse. Sans dire que c'est Spinoza qui l'aurait donné. Spinoza dit que de partout, la nature humaine est la même. Il faut partir de l'idée que pour Spinoza, il n'y a pas plusieurs natures humaines. Quels que soient les hommes, ils fonctionnent de la même façon. Partout, la nature humaine est la même. Donc, que l'on soit chrétien, musulman, bouddhiste, etc. Ce qui veut dire que tous les hommes sont différents dans leur manière de vivre, dans leurs opinions, dans leur culture. Il y a autant de têtes que d'avis. Spinoza le dit d'ailleurs dans un de ses textes. Et pourtant, la matrice du fonctionnement est commune. Donc, je pense, d'autant plus que c'est un homme du XVIIe siècle, qui distingue, du moins visuellement, les manières de vivre et de penser de chacun en fonction de l'habit. C'est-à-dire que les Spinoza et juifs. Les juifs, à l'époque, ne sont pas habillés de la même manière que les chrétiens calvinistes hollandais. Ça se voit. Je pense que ça ne poserait aucun problème à Spinoza, la question de l'habit et du voile. Comme ça devrait ne nous poser aussi à nous aucun problème. Seulement, il est en même temps totalement conscient des adversaires à combattre pour défendre la liberté de philosopher et la liberté d'expression. C'est-à-dire que Spinoza, comme je l'ai dit, défend l'idée de la liberté de chacun de croire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. Hein, oui, la liberté de parole et d'expression. Mais il sait très bien que la dérive des religions peut être une dérive superstitieuse et fanatique. C'est-à-dire que la liberté d'expression est un combat, comme il l'a mené lui-même en son temps en écrivant le traité théologico-politique. Ce combat ne se fait pas contre les religions et contre les formes de vie religieuse. Il se fait contre la religion lorsque celle-ci est superstitieuse et fanatique, c'est-à-dire que Spinoza souhaiterait à la fois que les religions soient d'accord sur un credo minimum, ce qu'il développe dans le traité théologico-politique. Un credo minimum qui permettrait, une fois accepté ce credo minimum, à chacun de vivre comme il le souhaite et de s'habiller comme il veut, naturellement à condition de former, sur la base de cette diversité, une société commune et de développer une liberté commune. Une liberté qui permet à chacun non seulement de croire ce qu'il veut, de s'habiller comme il veut, mais qui permet à d'autres d'être athées et de vivre par la même aussi comme ils le veulent. Ça veut dire que les religions ne doivent pas déborder sur la liberté individuelle, et pour Spinoza, c'est à l'État de le garantir, et les religions elles-mêmes, tout en reconnaissant un credo commun, peuvent se développer dans leur diversité à condition que cette diversité participe de l'enrichissement de la vie commune et de la communication dans l'égalité de chaque membre de la société. C'est-à-dire que, naturellement, cette défense est aussi une défense de la liberté individuelle. Ça veut dire que les religions dont parle Spinoza, il ne leur accorderait pas le droit, bien sûr, d'avoir barre sur leurs propres fidèles. C'est-à-dire, dans une société libre, c'est librement qu'un individu choisit sa religion et qu'il peut également la quitter. Naturellement, c'est une exigence politique vis-à-vis des religions, tout en leur préservant la plus grande liberté à la fois de culte, d'habits, etc. Mais, pour Spinoza, sous le contrôle de l'État démocratique.
Ben, merci Laurent de finir sur une, je dirais, une vision positive de notre vivre ensemble, ce qui est un besoin, je crois, absolument nécessaire dans les temps qui sont les nôtres. Et puis, ben, je souhaite à chacun une bonne écoute de la conférence que tu as donc donnée hier. Et à très bientôt, certainement dans le Diwar. Au revoir à tous.
Interview. Okay, bye-bye, everyone.